C'est aujourd'hui l'anniversaire du décès d'une femme exceptionnelle, une Anglaise, Elizabeth Hayes, qui en religion est devenue à l'intérieur de l'Église catholique, alors qu'elle était anglicane de la très haute Église anglicane. Elle est devenue mère Ignace de Jésus et elle a fondé les franciscaines missionnaires de l'Immaculée Conception, que l'on retrouve à Montréal depuis 1912 et qui ont établi, fondé en 1939, le pensionnat Notre-Dame-des-Anges à Rosemont, il y a déjà près de 60 ans. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. C'est toute une histoire que la vie de cette femme, une femme exceptionnelle. Hein? Elle a vraiment fait l'histoire dans un sens, Elizabeth Hayes, en devenant la fondatrice des sœurs franciscaines missionnaires de l'Immaculée Conception, sous le nom, comme je viens de vous le dire, de Mère Marie Ignace de Jésus. Elizabeth Hayes appartenait à une grande famille, et une famille proéminente, comme on dit, dans le monde musical. Prenez l'exemple de son arrière-grand-père, le docteur William Hayes, qui a été nommé professeur de musique à Oxford. Ce n'est pas n'importe quoi, en 1742. D'ailleurs, à l'ouverture de la fameuse bibliothèque Radcliffe, en 7 ans plus tard, ce docteur William Hayes a dirigé la cérémonie. Il a été créé à cette occasion docteur en musique. Son fils, Philip Hayes, le grand-père d'Elizabeth Hayes, après avoir gradué à Oxford en 1763, c'est l'année de la chute du Canada aux mains des Anglais, a été nommé gentilhomme de la chapelle royale. Et 12 ans plus tard, il a été choisi comme organiste du New College à Oxford, et à la mort de son père, l'année suivante, il obtenait le poste d'organiste de Magdalen College et de professeur de musique à l'université de cette même ville. Et puis, un honneur extraordinaire qui lui est arrivé, après sa mort, il a été enseveli dans la fameuse cathédrale Saint-Paul. C'était les grandes familles, comme vous voyez. Alors, la famille Hayes résidait à Londres. Le père d'Elizabeth était le révérend Philip Hayes. Le révérend Philip Hayes, on peut dire que c'était un ministre protestant, mais je préfère dire que c'était un prêtre anglican, car ils étaient de la Haute Église. Ils dirigeaient la Haute Église anglicane, et pour ainsi dire catholique, en toutes les apparences. Hein. Ils ont des confessionnaux, ils croient à la présence réelle, ils ont des moines, des religieux, des religieuses. Souvent, dans certaines églises où je suis allé, comme ça, on ne vend à la porte que des ouvrages catholiques romains. C'est absolument extraordinaire. Il faut les connaître. Hein. C'est très spécial. Et alors, son père, Elizabeth, dirigeait avec grand succès une école de garçons. Elizabeth était la plus jeune d'une famille de 8 enfants, puis elle ressemblait à sa mère, qui était Mary Thomasine Reynolds, d'origine lointaine belge. Elle avait une nurse, Elizabeth, une jeune fille, qui était une fervente catholique, et souvent, lorsque cette nurse revenait de l'église catholique, évidemment, ses vêtements avaient comme un parfum d'encens, puis Elizabeth, qui était toute petite, elle aimait à s'envelopper dans leurs plis, puis elle aimait cette odeur mystérieuse. Au-dessus de son lit, quand elle était enfant, était suspendue une image. C'était une œuvre d'un missionnaire de Chine. Elle aimait la contempler. Et cette image a probablement été, on le croit, à l'origine de son attrait pour la vie missionnaire, car sa congrégation a été fondée comme congrégation missionnaire aux États-Unis, en plein milieu canadien-français, mais aux États-Unis, dans l'Ouest. Et alors que tu semblais rose pour cette petite fille, elle était très heureuse dans sa famille, lui est arrivé quelque chose de terrible, c'est que sa mère, qu'elle adorait, est morte. Et c'était le plus grand chagrin, peut-être, de sa vie, le premier en tous les cas. Elle n'avait que 8 ans. Elle aimait beaucoup son père, heureusement, et son père l'a bien consolée. C'était un bon prêtre anglican, son père. Et elle voulait se lancer dans la carrière de l'enseignement. Et elle a donc étudié avec beaucoup d'intensité, ça a pris tout son temps libre, alors que ses frères et ses sœurs, eux, qui appartenait toujours à cette bonne société de Londres, aimait justement cette société, les bals et les soirées. Mais Elisabeth, la plus jeune, elle, au contraire, elle préférait rester à la maison. Elle se sentait heureuse et satisfaite de sa manière de vivre. Et soudain, en 1839, dans sa 18e année, elle était jeune encore, son père, qu'elle aimait tellement, est mort encore. À son tour, elle était orpheline déjà. Elle a compris ses responsabilités comme fille d'un prêtre anglican. Elle a senti qu'une attitude sans courage ne serait pas digne de sa lignée, de sa famille. Et puis elle a abandonné la musique et le chant, puisque c'était en grande partie avec lui qu'elle s'y adonnait. Mais elle a tenu à continuer ses études. Et sa famille désirait ardemment son bonheur, hein? On l'aimait beaucoup. Mais elle est devenue méfiante quand on l'a vue lire des livres catholiques qu'elle empruntait à des prêtres catholiques. Et par le fait que sa jeunesse coïncidait avec le fameux grand mouvement d'Oxford. J'espère que vous connaissez ce grand mouvement d'Oxford qui a entraîné dans l'Église catholique beaucoup de merveilleux anglicans, des anglicans de très grande valeur, de très grande qualité, comme le futur cardinal Newman, dont je vous ai déjà parlé. Alors, elle a été influencée par tout ça. Je vous ai dit que sa famille était anglicane. Du côté de sa mère, il y a même eu des membres qui appartenaient au catholicisme. Elle aimait les cérémonies rituelles, elle aimait la liturgie, quoi. Ça l'a amené à se rapprocher avec beaucoup d'enthousiasme des idées du fameux docteur Pusey. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du docteur Pusey, P-U-S-E-Y, très grand nom dans l'histoire de l'anglicanisme en Angleterre, qui est né en 1800, lui, il est mort en 1882, et j'aimerais vous consacrer une émission un jour à cet homme merveilleux, qui a soutenu fermement le dogme de la transsubstantiation et de la présence réelle, et qui a tout fait pour rapprocher les anglicans des catholiques. Vers l'âge de 19 ans, Elisabeth est atteinte d'une faiblesse aiguë, l'épine dorsale. Ça l'a contraint à rester pendant 3 ans sur un lit orthopédique. Et ça rappelle ça, justement, Ignace de Loyola, dont elle va prendre le nom de religion, hein, Ignace. Ignace qui a été blessé à la guerre et qui a trouvé, en lisant des vies de saints, sa grande vocation fantastique, au XVIe siècle. Alors c'est vers cette même époque qu'elle se détermine, dès qu'elle sera parfaitement guérie, à entrer dans l'un des ordres religieux fondés par le docteur Pusey, à l'intérieur de l'anglicanisme, quoi. Alors les esprits les plus profonds, les plus logiques de cette époque étaient remués, comme je vous ai dit, par le mouvement d'Oxford. Les chefs, quand même, ne pouvaient s'accorder entre eux. Ils avaient différentes tendances, ils étaient influencés à l'intérieur de l'anglicanisme par le protestantisme et le catholicisme. Et tandis que toutes sortes de difficultés doctrinales et historiques, les discussions, je vous donne le qualificatif à ces discussions, les discussions tractériennes, ça venait des tracts, n'est-ce pas, que Newman publiait comme anglican, là, ça a eu beaucoup d'effets, tout ça. Mais tout ça, ces discussions-là ont forcé, justement, Newman, ce grand penseur, à devenir catholique, à changer de religion. Ça a ébranlé aussi la foi anglicane de Manning, qui est devenu lui aussi le cardinal Manning, plus tard, comme Newman est devenu le cardinal Newman. Alors, Elizabeth Hayes était hésitante. Elle était fortement, comme on dit dans le langage anglican, ritualiste, c'est-à-dire qu'elle aimait la liturgie, la belle grande liturgie. Alors, elle s'était mise sous la direction là, très serrée du docteur Pusey. Pusey avait plus de sympathie pour les controverses des ritualistes. Mais théologiquement, il demeurait avec ceux qui y adhéraient. Il a fait beaucoup pour raviver la pratique de la confession privée dans l'anglicanisme. Puis il a été le fondateur puis le conseiller de plusieurs communautés de religieuses anglicanes. Alors à 29 ans, en 1850, après mûre réflexion, Elizabeth Hayes rompt ses liens de famille. Elle se joint, comme je vous ai dit, à une communauté anglicane à donner à la pénitence. Elle y entre en 1850, à 29 ans. Et les sœurs, ces sœurs anglicanes, étaient vêtues de gris. On en a eu des sœurs anglicanes à Montréal, on les voyait dans la rue pendant un certain temps. Je n'en ai pas vu depuis un bon bout de temps, là. Elles vivaient dans un beau couvent, Elle menait une vie des plus exemplaires et vraiment mortifiée. Outre la confession hebdomadaire, l'arrestation de prières variées en commun, ses sœurs anglicanes visitaient les malades à domicile, dirigeaient un orphelinat puis un grand hospice attenant à leur couvent pour les pauvres et les vieillards. Et sœur Elizabeth Hayes était déjà bien formée au dévouement envers les indigents. Et un jour, elle assistait par hasard à une conférence du docteur Pusey, dans laquelle il critique certaines pratiques de l'Église de Rome, comme on dit, telles que la confession auriculaire, etc. Elle est surprise. Elle devient plus bouleversée que jamais en face d'une telle contradiction, d'une telle inconstance. Elle se demande, l'Église anglicane n'a-t-elle pas de croyances définies concernant la foi et la morale, ce qui ne laissera aucun doute sur sa doctrine? Elle aurait hors d'elle-même. Elle est confuse. Elle se rend immédiatement au vestiaire pour une entrevue, puis elle demande au docteur Pusey comment il se fait qu'il ait tourné en ridicule ses pratiques romaines, comme il avait dit, alors que lui-même entendait les confessions et l'avait fortement poussé à faire le pas qu'elle était sur le point de franchir en prononçant ses vœux de façon définitive. Alors le docteur Pusey lui répond, et c'est là qu'on voit la contradiction de certains de ces hommes, hein, et ça existe maintenant dans l'Église catholique, ça. Ce qui est une objection pour le monde est très faisable pour les élus. Alors Elizabeth Hayes lui demande, alors, à qui les vœux doivent-ils être faits? Il dit à l'évêque. Alors elle lui réplique sans détour, oh non, lui aussi me commandera et me conseillera dans le secret, puis en public il se contredira. Alors il dit, faites vos vœux à votre directeur spirituel. Alors elle dit pas à lui non plus, car en toute probabilité, il prendra le chemin de Rome un jour. Et dans ce cas, où en serais-je? Il sera catholique. Alors Élisabeth décide que ses vœux devaient être faits à l'Église de Dieu, puis c'est à l'Église de Dieu qu'elle les fait. Seule. Au printemps de 1852, elle a 31 ans, cette jeune religieuse anglicane est choisie comme étant la plus apte à devenir Lady Abbess. Le sermon est prononcé par le docteur Pusey lui-même sur le texte de l'Évangile où Jésus dit « Marie ». Et elle, se retournant, lui dit « Rabboni ». Alors elle assume sa charge et cette nouvelle abbesse s'adonne plus que jamais à la lecture des livres catholiques ascétiques, y compris la vie des saints, comme Saint Ignace dont je vous ai parlé tout à l'heure, Saint Ignace de Loyola. Alors elle lit surtout la grande Sainte Thérèse d'Avila en particulier, ça la fascine, hein. Elle est saisie d'une ardeur nouvelle. Elle réalise qu'elle ne pouvait être heureuse qu'en devenant catholique, finalement. Et elle résout de le devenir sans plus de délai. Et du reste, elle n'est pas seule dans ses dispositions parce que le malaise a pénétré la communauté, puis plusieurs de ses sœurs dans la communauté suivent son exemple. Et sous la direction du révérend Dr Manning, qui sera plus tard cardinal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lequel avait été reçu dans l'Église catholique en 1851, mais la foi catholique puis le dogme s'élucide petit à petit dans la tête et dans l'âme d'Élisabeth. Ce que son intelligence ne pouvait saisir, la foi le complète. Et cœur et âme, finalement, en elle, répondent à cette lumière. Et en avril 1955, ça prend du temps quand même, Élisabeth fait finalement son abjuration, comme on dit. Elle est baptisée sous condition par un père jésuite dans l'église de l'Immaculée Conception, connue sous le nom familier de Farm Street Church à Londres. Elle fait sa première communion, puis elle reçoit en même temps le sacrement de confirmation. Elle avait trouvé la foi religieuse de ses ancêtres qui la satisfaisait. Et avec elle est venu le profond, puis habituellement contentement, si on peut dire, qui provient de cet aspect catholique de la vie. C'est universel, l'Église catholique, alors que l'Église anglicane était comme réservée à l'Empire britannique. Alors, des années de souffrance suivre après cette conversion. Hein. Elizabeth Hayes sera pas toujours très heureuse. Elle est peut-être membre, comme elle dit, de l'unique et vraie Église, mais elle a appris que Dieu est le centre et l'objectif du culte catholique. Elle le sait. C'est la même chose d'ailleurs chez les anglicans, j'imagine bien. Mais elle recherche immédiatement l'avis du docteur Manning pour le choix de la communauté où elle entrera. avec sa foi nouvellement acquise, le docteur Manning, comme je vous ai dit, est devenu catholique lui aussi. Alors les Clarisses l'attirent. Mais finalement, elle entre dans une autre communauté. Elle entre chez les sœurs Rosminiennes du Précieux Sang, une nouvelle communauté que le révérend Manning avait fondée avec l'assistance de Miss Lockhart. Lockhart, c'est la sœur du fameux père Lockhart, ou Lockhart, le premier converti du mouvement d'Oxford, de passer au catholicisme. Et le docteur Manning, qui plus tard est parvenu à mettre les catholiques sur le même pied que leurs compatriotes en Angleterre, travaille avec zèle l'amélioration de la classe ouvrière, des pauvres et des déshérités. Et Miss Lockhart, avant et après sa conversion, avait placé entre ses mains une fortune considérable pour les besoins de son œuvre. Alors, Elizabeth Hayes, maintenant connue sous le nom de Sœur Marie Ignace de Jésus, ou Mary Ignace of Jesus, conçoit une tendre dévotion envers son patron Saint Ignace. La communauté se compose presque entièrement de convertis. J'ai vu ça, m'excuse de parler de choses que j'ai vues, mais enfin, il y a des gens qui aiment pas ça, mais je le fais quand même. J'étais allé à la Chartreuse anglaise, une immense Chartreuse dans le Sussex, et une bonne partie, le prieur, l'économe, etc., c'était des prêtres anglicans convertis au catholicisme. Alors, c'était des femmes, elles, dans sa communauté, qui étaient de haute culture, qui étaient venues de l'anglicanisme. Alors, elles ont dans leur mère abbesse une personne accomplie, très aimable, comme le sont souvent les grandes religieuses et les grands religieux anglais. En Angleterre, c'est ce qui frappe au contact des catholiques et des anglicans. Alors, elles travaillent, ces femmes, beaucoup et pendant de longues heures. Et le second but de leur institut missionnaire, c'est le labeur en faveur des pauvres, des abandonnés. Les malheureux deviennent vraiment l'objet du zèle brûlant de Sœur Marie Ignace. Elle veut aider les malades pauvres dans leur logis. Elle garde évidemment une grande dévotion au Saint-Sacrement. Notre Seigneur n'était pas pour elle un être abstrait, confiné dans les cieux. Elle le voit partout et en tout, avec une foi admirable. Et elle le voit particulièrement dans les enfants, dans les malades. En 1857, donc après une brève visite à Rome, le docteur Manning demande et obtient de l'évêque de Glasgow la permission d'agréger sa jeune congrégation à l'Institut des Sœurs Franciscaines de l'Immaculée Conception. Et ces religieuses, appelées Sœurs Grises, formaient une branche du tiers-ordre régulier de Saint-François d'Assise. Ou du troisième ordre, tiers-ordre. Leur premier monastère a été fondé en 1455 à Comines, en France. Et cette agrégation, donc, est accueillie très chaleureusement, et Sœur Marie Ignace, alors âgée de 36 ans, déterminée à devenir franciscaine dans toute la force du mot, recommence un troisième noviciat. Une stricte discipline intérieure, une haute spiritualité aussi, qui est prescrite par la règle franciscaine, tout ça, ça s'unit à un travail qui est assez épuisant. La communauté s'occupe de l'enseignement dans les écoles paroissiales, hein, comme les sœurs franciscaines de missionnaires de l'Immaculée Conception s'occupent de ce pensionnat à Rosemont, ici à Montréal. Donc, elle travaille aussi bien dans les écoles du soir aussi pour les jeunes ouvrières. Puis avec le consentement de l'évêque, qui était alors son directeur, il décide de vouer sa vie aux missions lointaines. Hein. Vous retrouvez le tableau au-dessus de son lit dans son enfance. Et là, le 26 novembre, à la fête de Saint-Léonard de Port-Maurice, c'est bien sœur Marie-Ignace de Jésus prononce ses vœux de profession religieuse. Cours d'une soirée de décembre 1859, elle a 38 ans, sœur Marie-Ignace s'embarque sur un bateau en route pour la Jamaïque, dans la mer des Antilles. Arrivée là, ses occupations ne se révèlent pas des plus consolantes. De longues heures de travail ardu se passent dans une salle de classe, d'un pensionnat à la mode, là, pour instruire les filles de riches planteurs créoles. Et ces jeunes filles, qui sont peu dociles et réceptives, ne profitent pas des occasions excellentes là, qui leur sont données de s'instruire. Elles n'ont pas le moindre désir de s'améliorer. Sœur Marie Ignace est désolée devant ça. Elle donne ce qu'elle a de meilleur pendant trois longues années, dans des circonstances les plus pénibles. Il faut dire aussi que le climat est défavorable. Sa santé délicate est attaquée. Et ça s'ajoute à toutes les exigences de la règle qui est rigoureuse. Alors finalement, elle est munie des permissions requises de ses supérieurs ecclésiastiques ainsi que de sa mère prieure. Alors sœur Marinia se prépare à retourner en Europe avec une autre sœur dont l'état physique a été également blessé, si on peut dire, par le climat de ce qu'on appelle les Indes occidentales, en Jamaïque. Et toutes deux étaient maintenant libres de retourner à leur couvent primitif de Glasgow, en Angleterre. Dans le cas où il leur serait impossible de s'affilier à quelques communautés de franciscaines en France, dans le but de recruter des missionnaires pour les Antilles françaises. Elles avaient même la liberté de fonder en France une maison de recrutement, et enfin l'heure était venue de commencer l'œuvre vers laquelle elles se sentaient attirées. Vers la fin de l'année 1863, sœur Marie Ignace, avec sa compagne, se trouve sur le pont, finalement, d'un paquebot, scrutant l'approche de la terre de France, là, qui doit être le nouveau champ d'apostolat. Et la future fondatrice, maintenant dans sa 43e année, avait appris à apprécier une vie calme, dans un cadre familier. Elle avait connu l'échec, la souffrance aussi, mais en dépit de son anxiété, elle se sentait heureuse, et à leur arrivée à Paris, elle reçoit l'hospitalité dans un couvent de Clarisse. Oh, 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 une nouvelle difficulté l'y attend. Qu'est-ce qui arrive? Sa compagne, sur l'avis de son confesseur, décide d'entrer chez ces Clarisses-là. Alors elle se retrouve seule. Sœur Marie-Agnès, bien seule, est munie quand même de lettre d'introduction auprès de l'archevêque de Paris. Alors, dans la solitude tranquille de sa cellule, elle esquisse les plans et les propositions là, qu'elle va lui présenter. Mais sur le champ, il lui donne de vive voix et par écrit, cet évêque, son approbation. Puis selon le désir exprimé, il lui donne l'autorisation d'acheter une propriété dans un endroit convenable pour une fondation. Alors, outre son but principal de formation de sujets pour les missions, elle propose une œuvre locale, le soulagement des pauvres. Les pauvres d'origine anglaise et irlandaise qui vivent à Paris. Et le premier pas vers l'établissement de cette œuvre serait l'organisation d'un groupe d'associés. Savez-vous, comme aujourd'hui les congrégations ont beaucoup d'associés. Moi, je suis associé au bénédictin de Saint-Bernard-du-Lac et je ne suis pas fâché de l'avoir fait. Il faut faire ça, je crois, comme laïque. Ça nous rattache à des grandes œuvres. Et c'est vers cette époque que sœur Marie Ignace fait connaissance de Madame Alfred Montgomery, la fille du comte de Leckenfield. Cette dame vivait en exil à Paris, et c'est au prix de sa conversion à la foi catholique qu'elle a été forcée à l'époque d'abandonner son foyer, sa patrie, son mari et ses enfants. C'était comme ça, hein? Et ces deux femmes, donc, mère Marie Ignace et cette femme, Madame Alfred Montgomery, deviennent des amies pour la vie. Alors, sœur Marie Ignace est donc engagée dans des travaux de sa nouvelle fondation à Paris. Puis on décide qu'elle abandonnerait momentanément son projet pour se rendre à Rome. Et Madame Montgomery, avec sa charité continue, s'occupe des détails du voyage. Et qu'est-ce qui arrive? Le pape Pie IX accueille avec bonté cette faillante fondatrice qui est mère Marie Ignace. Il la bénit, il l'encourage, il éclaire tous ses doutes et il reçoit même ses vœux lui-même. C'est phénoménal. Elle fait ses vœux entre les mains du pape. Elle rédige les nouvelles constitutions de sa congrégation, qui sont sanctionnés à Rome par le pape Pie IX. Et sœur Marie Ignace poursuit de nouveaux projets, ses projets d'avenir. Elle était alors munie de la bénédiction du pape, de celle du révérend père général des franciscains, et aussi de la permission du cardinal préfet de la propagande, qui s'occupe des missions. Elle a donc la permission d'aller fonder, selon les nouvelles constitutions, partout où elle croirait pouvoir faire du bien dans le monde, et ce qui lui vaut la faculté d'ouvrir une maison à Rome même. Mais l'idéal qu'elle a conçu de travailler pour les missions à l'étranger l'empêche d'accepter de fonder cette maison à Rome. Cependant, comme l'avenir le prouvera, Dieu va la désigner pour établir une maison même à Rome. Ça va se faire. Et elle va traverser l'Atlantique je ne sais combien de fois. En partant pour Paris, avec la pensée de se rendre immédiatement dans les missions, elle est persuadée par ses amis et par les demandes de son amie Madame Montgomery de reprendre l'initiative d'ouvrir une maison en France pour trouver des vocations et dans le but vraiment de les former ces vocations missionnaires. Ce qui serait, selon leurs prévisions, le plus sûr moyen évidemment de remplir son projet, ses désirs, puis d'en assurer vraiment l'accomplissement de façon sérieuse. Alors elles cèdent à leur suggestion, bien qu'elles ne soient pas intimement convaincues, et l'on décide d'établir une maison à Sèvres, dans le diocèse de Versailles, là où il y a la belle manufacture de porcelaine de Sèvres, que vous avez visité, vous qu'elles allaient à Versailles, j'espère. Alors elle y reçoit des sujets, elle leur donne l'habit. Il y a des vocations. Au nombre des nouvelles recrues se trouve une demoiselle Annie Peet, P-E-E-T, une Anglaise convertie, qui possède très bien le français puis l'allemand, qui est très habile aussi. Elle prend le nom de Sœur Marie-Claire du Saint-Sacrement, et on va retrouver Sœur Marie-Claire, ce sera le bras droit de Mère Marie-Ignace. D'ailleurs, elle devient la compagne de Mère Marie-Ignace. Et d'ailleurs, c'est elle qui sera son aide dévouée dans les nombreuses difficultés de la première fondation qui va se faire à Belle Prairie, dans le Minnesota, imaginez, pas à la porte. Bravant des difficultés inouïes, les rigueurs d'un hiver rude, le Mère Marie-Ignace se rend donc en Amérique. Elle commence la construction de son premier couvent à Belle Prairie, au Minnesota. Belle Prairie, pourquoi un nom français? C'est un village canadien-français. C'est près de Little Falls. Dans l'intervalle, elle se contente de vivre dans une petite cabane de bois rond. Comme on dit en anglais, a log cabin. Qu'on voit encore à quelques mètres du couvent, où c'est toujours là-bas. Il y avait alors plusieurs Indiens dans le voisinage. Puis dans les années qui ont suivi, Mère Marie-Ignace aimait à raconter comment ces Indiens sympathiques venaient épier les nouvelles venues par la fenêtre, ils s'aplatissaient le nez contre les vitres, et ces jours lui semblaient avoir été les plus heureux, parce que ils étaient remplis de souffrances, de sacrifices, mais d'un immense amour pour tous ces gens, et d'un amour encore plus grand pour Dieu. Au mois de juin 1874, Mère Marie-Ignace se rend à Rome dans un double but. Elle désire ardemment pouvoir procurer à sa nouvelle fondation l'assistance spirituelle des pères franciscains. Elle voudrait vraiment un aumônier. Le deuxième but de son voyage, c'est le désir d'amener quelques religieuses clarisses au Minnesota. Elle projette de leur établir un monastère là, pour la prière et la contemplation, mais conjointement avec sa communauté de sœurs du tiers-ordre régulier qui, elle, mène une vie active et qui pourrait voir au maintien des deux communautés. Alors elle est munie des permissions requises de l'évêque du diocèse. Elle a déjà acheté un vaste terrain à Belle Prairie, où un grand couvent est en construction. Alors tout s'achemine, et les arrangements pour leur départ de la vie éternelle étant terminés, Mère Marie-Ignace, les deux Clarisses et le père que le général des Franciscains leur avait assigné comme aumônier quittent Rome le 14 août 1875. Elle va rencontrer d'autres difficultés, cette pauvre Mère Marie-Ignace. Je vous fais grâce sur tous les voyages. Je l'apprends en Europe et en Amérique. Elle voyage constamment. Les voyageurs, donc, se rendent assises avant de partir pour visiter les lieux là, où ont vécu Saint-François et Sainte-Claire. Hein. Elles vont aussi à Padoue, au tombeau de Saint-Antoine, le grand franciscain, grand prédicateur d'origine portugaise. Ils se rendent ensuite à Marseille, où ils sont obligés d'attendre pendant plusieurs jours le départ de leur bateau. Ils s'embarquent en septembre et arrivent à New York le 12 octobre. Plus on approchait des États-Unis, plus profonde devient la conviction de Mère Marie-Ignace que son plan primitif ne serait pas réalisé. En effet, après deux jours passés à New York, les sœurs Clarisse lui déclarent ouvertement qu'elles ne pourront pas se rendre au Minnesota avec elles. Pourquoi? C'est que certaines personnes à New York les ont persuadées que le climat du Minnesota était trop rigoureux et l'endroit trop pauvre pour subvenir aux besoins d'une telle entreprise. Sœur Marie-Ignace est très déçue. Très déçue dans ses plans au sujet des sœurs Clarisse. Elle prévoit que la nouvelle bâtisse sera habitable en la fête de l'Immaculée Conception. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle tourne alors ses regards vers le Canada, oui, pour y chercher des vocations. Elle a entendu dire qu'il y avait beaucoup de vocations ici. Elle veut recueillir aussi de l'aide pécuniaire. Elle sait que les gens ici sont généreux. Alors, Sœur Marie-Claire, là, son assistante, est donc envoyée à Montréal et l'on compte trouver quelques recrues pour la nouvelle maison. Mère Marie-Ignace va bientôt la rejoindre, puis Dans son itinéraire, elle profite d'un arrêt dans certaines villes, là, aux États-Unis, pour dénicher toute l'aide qu'elle pourrait y découvrir. Le bon accueil, les encouragements ne lui manquent pas de la part des évêques. À Chicago, Mère Marie Ignace reçoit l'hospitalité chez des sœurs bénédictines. Elle nourrissait d'ailleurs une affection toute spéciale pour la supérieure des bénédictines, Mère Marie-Thérèse, qui était une proche parente de l'abbé du Mont Cassin, en Italie. Vous savez que nous sommes situés sur l'avenue du Mont Cassin, qui est au cœur de l'ordre des bénédictins et des bénédictines. Mère Marie Ignace et sœur Marie-Claire, son adjointe, retournent finalement à Belle Prairie, au Minnesota, avec 7 postulants. Écoutez bien ça. L'une d'elles relate ses impressions des premiers jours passés dans ce couvent, avant la prise d'habit, aussi bien que pendant son noviciat. Voici ce qu'elle écrit. Ça date de cette époque, hein, c'est pas des farces. À notre arrivée au couvent, la chapelle était presque terminée. Notre mère se fit hâter les travaux afin de pouvoir l'inaugurer en la belle fête de l'Immaculée Conception et avoir la première messe ainsi que l'exposition solennelle du Très-Saint-Sacrement. Je vous parle souvent de l'Immaculée Conception, c'est que ce sont les sœurs, c'est la fondatrice des sœurs franciscaines missionnaires de l'Immaculée Conception. Alors là, la jeune sœur ajoute, « Nos cœurs tressaillirent de joie à l'approche de ce jour mémorable. La nuit qui la précéda fut employée presque toute entière à préparer les décorations, à épingler les draperies, etc., etc. » Écoutez, ça, c'est épouvantable. Le froid était vraiment rigoureux. La lune et les étoiles apparaissaient à travers les nombreuses fissures. Nos mains devinrent si engourdies que, malgré toute notre bonne volonté, nous ne pouvions parvenir à ramasser un clou ou une épingle. Cependant, quel contentement! Quel contentement! Et quelle félicité nous éprouvions! Oui, l'hiver était excessivement froid. L'eau gelait au dortoir, au point que nous étions obligés de nous laver le soir et souffler sur les blocs de glace le matin afin d'humecter notre serviette et nous rafraîchir la figure et les mains. C'est épouvantable. Elle continue, cette bonne sœur, nous avions un poêle au cœur et au réfectoire, aussi bien que dans la salle de communauté, mais nous levant à 4h30 du matin, la chapelle ne pouvait jamais être chauffée à temps pour les prières. Il en était ainsi pour notre réfectoire où la chaleur pénétrait difficilement avant la collation du matin. Ah, combien de fois nous claquions des dents à table et les doigts refusaient de se plier suffisamment pour soulever notre gobelet jusqu'à la bouche. Je pourrais continuer, mais je termine avec cette remarque. La maladie était inconnue parmi nous. Nous étions toutes en bonne santé, vigoureuses et heureuses. Mais j'imagine que les microbes étaient gelés. Pauvre sœur! Alors, Mère Marie Ignace se souvient bien des Noirs, comme on disait à l'époque des Nègres, mais ce n'est pas un mauvais mot, les Nègres. Hein. On parle de la négritude, la littérature nègre. C'est pas un mot mauvais que le mot nègre, en fait, en littérature, en art, etc. Donc, elle se souvient de ces Noirs dont elle s'est occupée aux Antilles. Elle désire maintenant ardemment établir une œuvre de bienfaisance pour ces pauvres Noirs du sud des États-Unis. Puis elle obtient la permission de l'évêque de s'absenter de son couvent. Alors, elle quitte provisoirement le petit couvent de Belle Prairie au Minnesota et elle laisse comme supérieure son assistante, évidemment, sœur Marie-Claire. Presque partout dans le sud des États-Unis, la pauvre race noire, cette portion, comme elle dit elle-même, du troupeau du divin pasteur, était négligée de façon terrible. Les évêques et les prêtres sont presque tous écrasés par l'étendue de la tâche qui leur incombe. La perspective d'une assistance prochaine de cette sœur, puis d'autres religieuses, bien que pauvres, leur vaut tout de suite un accueil très chaleureux. Alors le but du voyage, c'était de se rendre à Savannah. Mais toutefois, elles ne peuvent pas y arriver durant la nuit. Alors Mère Marinia s'arrête à Augusta, en Géorgie. Elle reçoit l'hospitalité chez les Sœurs de la Miséricorde. Et finalement, elle fait le choix de la ville d'Augusta, croyant que Dieu la dirige de ce côté d'abord, et qu'il l'y appelle là, vraiment. Alors des sœurs sont réclamées de Belle Prairie, là, au Minnesota, et l'on se met activement au travail. Une sœur écrit, extrême était la pauvreté de cette mission. On faisait cuire la nourriture sur un petit poêle de pétrole. Des malles servaient de chaises et les lits consistaient en des paillasses remplies de feuilles de maïs placées sur le plancher. Pour la révérende mère, Des planches étaient posées sur des caisses. On vécut de cette manière jusqu'à ce que le menuisier assembla des planches et des tréteaux pour former des lits. Nos tables étaient des boîtes et des malles. Petit à petit, cependant, on finit par s'installer assez convenablement. On ne dit pas assez souvent jusqu'à quel point tout ce qu'on doit à ces femmes extraordinaires qui ont été si religieuses au 19e siècle et au 20e siècle. Mon Dieu, quand on pense à tout ce dévouement. Et on les oublie, on parle contre elles, ça me brise le cœur, moi. Je n'en peux plus d'entendre ça. Je sais bien qu'il y a eu des défauts, je sais bien qu'il y a eu des faiblesses, qu'il n'en a pas. Mais ces femmes étaient extraordinaires, et Mère Marignace, qui a toujours été soutenue par sa foi inaltérable en Dieu, c'est au milieu de 1000 difficultés matérielles, donc, qu'elle commence à établir le nouveau noviciat de son institut à Rome. Dès que la maison est ouverte, on fait élever un autel et l'on obtient la permission d'y faire célébrer la messe. En juillet 1882, dans le but d'augmenter le personnel de sa maison de Rome, Mère Marignace fait venir de la mission d'Augusta, justement en Géorgie, aux États-Unis, quelques religieuses. Alors, il y a là Sœur Marie des Anges, Sœur Agnès, Sœur Hyacinthe, ainsi qu'une postulante, Frédérique Lowe. C'est l'une des jeunes noires. Et enfin, Rosaline Thomas. Ces religieuses, cinq religieuses, arrivent à assises de 1er août, vigile de la portioncule. Hein. Portioncule, c'est la petite chapelle qu'on voit assise. Elles ont la joie d'y trouver Mère Marignace, qui est là. Mais elle repart pour Rome, Mère Marignace, ce jour même. Il faut qu'elle parte accompagnée de Sœur Marie des Anges. Et là, les préparatifs de la cérémonie de vêture et de profession religieuse de ses sœurs la ramènent de nouveau à Assise pour la fête de Saint-Pierre d'Alcantara, dont je vous ai déjà parlé. Mais écoutez bien ça, le 19 octobre 1882, c'est un jour absolument mémorable pour trois âmes bien privilégiées, dont deux postulantes, c'est-à-dire que Julie Michaud de Montréal et Frédéric Lowe, dont j'ai parlé, de Savannah, en Géorgie, ont l'insigne faveur de revêtir l'habit franciscain dans la Sainte Chapelle de Notre-Dame-des-Anges à Assise. C'est un fait remarquable. C'était la première fois qu'une cérémonie de vêture avait lieu dans la portioncule depuis le jour. À jamais béni, peut-on dire, où Claire d'Assise, s'étant enfuie de la maison paternelle pour se consacrer au Seigneur, a eu les cheveux coupés et a été revêtue de l'habit franciscaine. Par qui? Par Saint-François lui-même. Alors, à l'automne de 1884, elle fait venir une sœur à Rome, afin d'accompagner deux postulantes de Belle-Prairie. Comment s'appellent ces deux postulantes? Denise Roy et Délima Branchot, hein? Des bien des noms de chez nous. Au cours de divers voyages à Montréal, Mère Marignace avait rencontré Mademoiselle Stéphanie Vincent, supérieure d'une maison de tertiaire franciscaine, appelée Refuge de la Passion et dirigée par les Sulpiciens. Alors, Mère Marignace fait entrevoir à cette Stéphanie Vincent qu'au cas de démembrement de sa communauté, elle la recevrait volontiers dans son propre institut. Alors, en novembre 1885, s'embarque à New York, Mademoiselle Vincent, avec sept de ses compagnes, pour le noviciat de la communauté à Rome. Sœur Marie-Léonard les accompagne avec quatre autres postulantes des États-Unis. Les vocations ne manquent pas. Et elles arrivent à Rome pour la fête de l'Immaculée Conception, encore une fois, après une traversée plus ou moins mouvementée, car le paquebot a failli s'échouer sur les côtes d'Espagne. À l'automne de 1888, Mère Marignace apprend la destruction totale du couvent de Belle-Prairie. C'est le berceau de l'Institut qui est incendié en pleine nuit par une main criminelle. Dans les sœurs, les petites pensionnaires, quoi qu'à demi-vêtues, avaient eu le temps justement d'échapper au danger de se réfugier chez le voisin, qui était un monsieur Doucette, un bon Québécois, quoi. Et pourtant, on était au Minnesota. Et on ne put absolument rien sauver. Mère Marignace souffre intensément de ne pas être auprès de ses enfants pour les secourir. Alors elle leur exprime sa vive sympathie. Elle leur envoie tout ce qui pourrait les aider. Elle leur donne l'instruction de se rendre à la maison de Georgie, à Augusta. Et sur le conseil de l'archevêque, Monseigneur Ireland, bon Irlandais, n'est-ce pas, il n'était pas prudent de rebâtir à Belle-Prairie, vu l'état des choses, hein, et au milieu de pénibles anxiétés. Bien, Mère Marignace a encore la douleur d'apprendre que ses premiers sujets d'Amérique manifeste du mécontentement. L'importance donnée aux maisons en Italie leur déplaisait sans doute, puis elle avait des absences trop prolongées. Puis elles sont en protestation à Rome, et vous verrez la suite tout à l'heure. Alors elle a bien des problèmes, notre sœur Marie-Ignace, Elizabeth Hayes, de son nom de jeune fille. Elle est stupéfaite un jour d'apprendre que deux des sœurs des États-Unis étaient vraiment venues furtivement à Rome demander au Saint-Siège leur séparation de l'Institut puis la permission de s'ériger en congrégation à part, parce qu'elles sont, comme je vous ai dit tout à l'heure, assez chagrinées ou choquées même de l'absence trop prolongée de leur fondatrice et puis de l'établissement de maisons en Italie, au détriment peut-être de leur maison des États-Unis. Alors, ces religieuses logent dans une communauté étrangère. Elles espèrent exécuter leur dessein, leur projet, avant que leur présence dans la ville éternelle ne soit connue de Marie-Ignace. Là, le cardinal préfet de la Sacrée Congrégation, à qui elle s'était adressée, avait toujours témoigné une grande bonté à Mère Marie-Ignace. Alors, il leur demande donc de présenter à Mère Marie-Ignace leur demande pour obtenir son consentement. Et puis, Mère Marie-Ignace est bien surprise de cette désertion inattendue, mais elle perd pas contenance. Elle a cette noblesse, on pourrait dire, des Anglaises, très, je dirais même de la High Church of England. Elle reçoit, c'est une catholique quand même, elle reçoit leur visite avec bonté. Elle écoute leurs plaintes. Elle garde silence devant leurs griefs exagérés. C'est ce qu'on appelle le flegme anglais. C'est peut-être aussi la grande vertu chrétienne. Alors, d'une manière bien douce, elle leur déclare qu'elle ne mettra aucune entrave à leur désir de se soustraire à son autorité puis se séparer de son institut. On devine sans peine, c'est un événement qui porte un coup terrible à Mère Marie-Ignace. Elle souffre intensément de la défection de ses premières filles spirituelles, de leur manque de loyauté. Ça lui cause un immense chagrin. Loin de se décourager, Mère Marie-Ignace s'enflamme de plus en plus. Mais son pauvre corps affaibli ne peut correspondre autant qu'elle le désire à tous les élans de son apostolat. Alors elle ne tient pas compte de sa faiblesse et de ses infirmités. Mère Marie-Ignace décide d'entreprendre un voyage aux États-Unis au mois de juin 1893. À son arrivée à Naples, une inflammation interne qui l'oblige à s'arrêter. C'est l'hydropisie qui s'ensuit avec 8 mois de douleurs aiguës. Pendant tout le cours de cette maladie, il lui devient impossible de garder le lit. Elle est obligée de rester assise sur un fauteuil jour et nuit. Le 1er mai 1894, son confesseur, qui est gardien, ou si vous voulez, supérieur du monastère de San Pietro in Montorio, un franciscain, juge la mort très prochaine. Il lui administre les derniers sacrements. Après quelques moments de récollection, là, elle baisse son crucifix avec un grand sentiment de gratitude et de résignation, puis, dans un transport de joie, elle déclare aux sœurs qui l'entourent, d'une voix à peine perceptible peut-être, mais bien distincte, elle murmure, c'est une convertie, je vous le rappelle, de l'anglicanisme High Church, ce jour est vraiment le plus heureux de ma vie. Oh, quel privilège de mourir enfant de la Sainte Église catholique. Et elle dit bien catholique romaine, parce qu'en anglais on dit toujours Roman Catholic Church. Je voudrais que l'on puisse connaître mon bonheur, ajoute-t-elle. Et le samedi matin, veille de sa mort, elle exprime le désir d'être placée par terre sur une paillasse. C'est drôle, les morts veulent, les saints veulent mourir comme ça. Alors elle s'églisse au bord de ce grabat, la tête appuyée sur les genoux de l'une des sœurs, et au cours de l'après-midi, elle demande qu'on allume une chandelle parce qu'elle s'imagine qu'il fait noir. Et peu après, elle réitère la même demande, et à l'instant, une lampe est allumée. Puis au bout de quelques minutes, pour la troisième fois, elle exprime plaintivement le même désir. Alors on lui répond, « Ma chère mère, il y a une lampe sur la table, et elle brille dans vos yeux. » Puis alors, elle voit bien qu'elle a perdu la vue. Alors elle n'en parle plus, elle ne demande plus de lumière. Et à un certain moment, elle tend la main. Elle a de la difficulté à trouver ce qu'elle cherche. C'est son crucifix qu'elle cherche, et d'une voix faible, elle murmure quelques paroles. Alors son assistante lui dit, « Que désirez-vous, chère mère ?» Et elle répond, « Je désire mon Dieu. » Elle approche de sa mort. On peut dire que l'esprit du mal ne l'a pas inquiétée. Elle est ferme dans sa foi. Les sœurs, qui l'assistent, lui prodiguent tous les secours possibles, et vers 10 heures du soir, elles constatent que la fin approche. Mère Marie Ignace de Jésus, Elizabeth Hayes, entre dans le coma, et elle demeure dans cet état d'assoupissement jusqu'à 5 heures du lendemain matin, au moment où les cloches de la ville éternelle de Rome sonnent l'Angélus. Elle semble plongée comme dans un doux sommeil. Elle est morte. Elle est entrée dans la grande et vraie vie. C'était le 6 mai 1894. Cette grande fondatrice étonnante était âgée de 73 ans. La maladie qui l'a conduite au tombeau, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'hydropésie. Et savez-vous que c'est la même maladie dont est mort Saint-Antoine de Padoue, pour lequel elle avait une grande dévotion. Et Saint-Antoine de Padoue, c'est pas un petit saint, c'est un grand saint. Il faut connaître sa vie, hein? Je vous l'ai déjà raconté. On peut noter cette remarque. Son premier refuge, après qu'elle ait abjuré l'église anglicane qui s'est séparée de la grande église catholique, avait été un couvent dédié au précieux sang, et ce fut une chapelle dédiée au précieux sang qui a reçu en dépôt son pauvre corps, usé par les fatigues, puis tous ses travaux qu'elle avait entrepris pour la gloire de Dieu. Et ses filles spirituelles se sont comptées par centaines. Elles ont dirigé ou dirigent encore un grand nombre d'écoles et d'orphelinats aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Europe, en Australie, jusqu'en Océanie et à la Nouvelle-Guinée. Elles sont arrivées à Montréal en 1912. Et en 1912, elles ont ouvert une maison, donc elles ont accepté l'école paroissiale Notre-Dame de la Défense pour les Italiens. Mais elles ont fondé aussi ailleurs au Québec. Et finalement, en 1939, comme je vous ai dit au début, elles ont vu la construction d'un pensionnat, Notre-Dame des Anges, et sur le boulevard Rosemont. En 47, il y a eu l'ouverture d'une maison à Ville-Jacques-Cartier, 48 à Saint-Rémy-de-Tingwick, etc., de Tingwick, plutôt. Et alors, donc, je vous signale que le noviciat de cette congrégation admirable, à mon avis, est situé au pensionnat Notre-Dame-des-Anges, boulevard Rosemont, à Montréal. Peut-être qu'il y a des jeunes femmes qui songent à donner leur vie. Pourquoi pas là? Cette grande fondatrice, Elizabeth Hayes, est très inspirante. C'était une femme, à mon avis, merveilleuse. J'ai été heureux de vous raconter sa vie. Je l'invoque espérant que son institut continuera en dépit de tout. Et que des femmes ici au Québec comprendront que mieux vaut donner sa vie que de la garder et de la perdre. Qui donne sa vie gagne tout. On peut la donner dans le laïcat. Mais on peut la donner aussi dans la vie religieuse.